8h23, la presse, Frédéric Couteau, bonjour.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
À la une, qui pour s'opposer à Trump ?
Oui, qui sera le candidat démocrate à l'élection présidentielle de 2020 aux États-Unis ? Le camp démocrate entre dans le vif du sujet, relève la Croix. 10 candidats issus de ses rangs se retrouvent à Miami en Floride ce mercredi pour le premier grand débat des primaires du parti pour cette présidentielle. Demain, 10 autres candidats en feront de même, pour ce qui constitue un nombre total record d'aspirants à la Maison-Blanche sur la ligne de départ. La prestation de l'un d'eux, qui connaît déjà particulièrement bien les sphères du pouvoir à Washington, sera particulièrement suivie, pointe encore la Croix. Celle de l'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, qui participera au second débat. Depuis son entrée officielle dans la course au mois d'avril, ce vétéran de la politique, âgé de 76 ans, dont 40 passés dans la vie publique, domine les sondages. L'une des dernières enquêtes, publiée samedi dernier par l'université Monmouth auprès des électeurs, s'identifiant comme démocrate ou proche des démocrates, le place en effet à 32% des intentions de vote.
Attention, prévient pour sa part Libération, cette fois l'enjeu est décuplé.
Oui, Trump pourra-t-il pendant 4 années supplémentaires saccager à la fois la planète et les relations internationales tout en enfermant les États-Unis derrière leurs frontières. Ils sont donc 25 au total candidats démocrates à contester cette orientation désastreuse. Beaucoup de femmes, de représentants des minorités, de nouveaux visages avec deux figures connues aux deux extrémités du spectre, relève Libé. Bernie Sanders, socialiste revendiqué, social-démocrate en fait, il propose des réformes qui ont été faites depuis des lustres en Europe, et Joe Biden, donc, le très modéré vice-président de Barack Obama. Une règle ancienne, relève Libération, veut que le parti démocrate ait toujours intérêt au bout du compte à choisir un champion centriste pour capter les voix hésitantes, mais cette fois, il s'agit aussi de ramener à gauche les électeurs populaires des États industriels et blancs séduits par Trump. Le programme de réforme sociale défendu par Sanders peut y parvenir. Dans les sondages, il bat Trump dans l'élection nationale, tout comme Joe Biden.
À la une également, Frédéric, le plan américain pour la Palestine.
Oui, un plan qui n'est ni fait ni à faire, dénonce Le Monde. Loin d'être novateur, le volet économique de ce plan, échafaudé par Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, est un pot pourri d'idées pour la plupart préexistantes, dénonce encore le quotidien du soir, des projets qui ont souvent buté sur le carcan de l'occupation israélienne et qui semblent avoir été dépoussiérés et compilés à la va-vite pour les besoins de la conférence de Bahreïn. La particularité de l'approche du trentenaire new-yorkais réside dans son mépris ostensible du droit à l'autodétermination des Palestiniens, s'exclame encore Le Monde. Au principe de la terre contre la paix, socle de toute résolution du conflit, sauf à s'aventurer sur le terrain miné de l'État binational, il veut substituer le principe de l'argent contre la paix, 50 milliards de dollars en échange du renoncement des Palestiniens à un État digne de ce nom. Et Le Monde de conclure, si le mot « occupation » n'apparaît pas dans le plan Kushner, c'est bien parce qu'il a vocation à la perpétuer.
À la une du Figaro, le rapport sur la radicalisation islamiste en France dans les services publics.
353 auditions, 60 heures d'enregistrement, 7 mois de travail parlementaire et au final, une véritable plongée dans les services publics face à la radicalisation réalisée par une mission d'information de l'Assemblée nationale. Commentaire du Figaro. Ce rapport devrait provoquer un électrochoc et enfin obliger Emmanuel Macron à sortir de son mutisme gêné pour réaffirmer la place de la laïcité en France. Il l'avait promis, la réalité lui commande d'agir. Au-delà du foisonnement d'exemples et de témoignages qui donnent le vertige, ce rapport ne fait que pointer une évidence, relève le Figaro. L'islam militant et conquérant progresse à grande vitesse sur notre sol. À côté des actes terroristes sanglants et spectaculaires, il s'immisce sournoisement dans tous les pans de la société.
Le Parisien, lui, par contre, n'a pas vraiment la même interprétation de ce rapport, Frédéric.
Oui, le phénomène de radicalisation reste marginal, pointe le Parisien. Lorsque l'on entre avec les spécialistes auditionnés dans le dur du sujet, il apparaît que les cas de radicalisation problématique, c'est-à-dire pouvant déboucher sur un véritable danger, sont rares. Exemple, dans la police et dans la gendarmerie, une trentaine de cas en tout et pour tout, d'agents à surveiller sur un effectif global de 280 000 hommes et femmes. restent des secteurs sensibles, certes, reconnaît le Parisien, des zones non pas rouges mais oranges à surveiller et surtout où il faut développer la prévention. Les transports, d'abord, avec en première ligne la RATP. Les rapporteurs dénoncent en effet un phénomène croissant de communautarisme et vont jusqu'à proposer de faciliter le licenciement d'agents suspectés de radicalisation.
Enfin, vous nous suggérez un reportage à lire dans Libération sur le Zimbabwe, un pays en pleine débâcle économique.
Pénurie, coût élevé de la vie, marché noir. Pour tenter de sortir de l'asphyxie, le gouvernement a interdit lundi les transactions en devises étrangères. La première impression qu'offre la capitale du Zimbabwe, Harare, est celle d'une ville moderne et tranquille. En réalité, tout cela est trompeur, pointe l'envoyé spécial du journal. Derrière cette façade, les préoccupations de la population témoignent de l'asphyxie du pays. Un pays qui reste exsangue après deux décennies de crise. Pour sa part, poursuit Libération, le président Mnangagwa frappe à toutes les portes pour tenter de collecter des fonds, mais l'accueil est frileux. Les États-Unis ont prolongé d'un an les sanctions qui visent certaines personnalités. La Chine, la Russie et le voisin sud-africain sont réticents à mettre la main à la poche alors que le Zimbabwe tarde à rembourser ses dettes. Il faut dire que le Boeing rutilant stationné à Dubaï, utilisé par le président, ne rassure peut-être pas sur les nouvelles méthodes censées lutter contre la corruption.
Frédéric Couteau, La Presse sur RFI.